Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Avec des observations du télescope Webb, une équipe d'astrophysiciens a découvert un objet inhabituel qui est situé à un redshift de 1,14. Ils l'ont surnommé la galaxie infinie, avec le symbole comme un 8 renversé. Il s'agit en fait de deux noyaux de galaxies qui sont séparés de 10 kiloparsecs, au milieu desquels se trouve un trou noir supermassif. L'analyse de ce qui a pu se passer dans ce système mène vers une formation du trou noir supermassif par l'effondrement direct du nuage de gaz compressé qui s'est formé lors de la collision frontale des deux galaxies à disque. Ils publient leur étude dans The Astrophysical Journal Letters. La lumière proche infrarouge au repos de la galaxie infinie est dominée par deux noyaux compacts avec des masses stellaires d'environ 100 milliards de masses solaires. Les deux noyaux sont entourés d'un anneau ou d'une coquille proéminente, donnant à la galaxie l'apparence d'un 8 ou d'un symbole infini. La morphologie ressemble à celle du système qui est nommé 2HZ4, où la collision frontale de deux galaxies à disque parallèles a conduit à la formation d'anneaux collisionnels autour de leurs deux renflements. La spectroscopie avec le télescope Keck, les données radio du Very Large Array et les données X du télescope spatial Chandra montrent que la galaxie infinie abrite un trou noir supermassif qui est en accrétion active avec une luminosité radio et X de type quasar. Mais ce qui est remarquable, c'est que ce trou noir supermassif ne soit associé à aucun des deux noyaux galactiques, mais au contraire se situe exactement entre eux en termes de position et de vitesse radiale. De plus, à partir de l'émission excédentaire dans le filtre NIRCam F150W de Webb, Peter Van Dokkum de Yale et ses collaborateurs déduisent que le trou noir est intégré dans une distribution étendue de gaz émetteurs H-alpha, avec une largeur équivalente au référentiel au repos qui est comprise entre 400 et 2000 angströms. Le gaz couvre toute la largeur du système et a probablement été choqué et comprimé au site de collision, dans un équivalent à l'échelle galactique de ce qui s'est produit dans l'amas du boulet, qui lui est une collision de deux amas de galaxies. Alors après avoir testé différentes hypothèses pour expliquer cet étonnant arrangement, comme la présence d'une éventuelle troisième galaxie, ou bien un trou noir supermassif qui se serait échappé de sa galaxie d'origine, Van Dokkum et ses collaborateurs en arrivent à la conclusion que le trou noir, s'est formé in situ, là où il est encore observé. Ce serait en fait plutôt une conséquence de la morphologie inhabituelle du système, et ça expliquerait également sa position et sa vitesse radiale. Dans ce scénario, le gaz ionisé entre les noyaux galactiques est choqué et comprimé par la récente collision entre les deux galaxies. Selon les chercheurs, il est possible que le trou noir se soit formé suite à l'effondrement gravitationnel incontrôlable d'un nuage ou d'un filament au sein de ce gaz. Ce scénario relie le trou noir au nuage de gaz dans lequel il est enfoui et explique pourquoi sa vitesse radiale se situe exactement entre celle du gaz dans les deux anneaux galactiques. Alors cette idée est qualitativement similaire au modèle de formation de graines lourdes qui ont longtemps été proposées pour l'origine des trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Alors que le modèle dominant pour l'origine des trous noirs supermassifs reste encore celui qui est fondé sur une évolution à partir de trous noirs stellaires d'environ 1000 masses solaires, issus de la première génération d'étoiles, les étoiles de population 3, L'effondrement direct de nuages de gaz pré-galactiques d'environ 10 000 à 100 000 masses solaires est une alternative importante aujourd'hui. Les simulations montrent en effet que l'absence de métaux dans ces premiers objets baryoniques, combinée au champ de rayonnement externe et à la dynamique violente des gaz associés à la formation du halo, eh bien, peut créer des conditions propices à la formation de trous noirs supermassifs. Et récemment, ces modèles ont reçu une attention renouvelée car les premiers résultats du télescope Webb indiquent que de nombreuses galaxies ont des masses de trous noirs relativement élevées pour leur masse stellaire. Van Dokkum et ses collaborateurs précisent néanmoins que la similitude avec les modèles d'ensemencement des premiers trous noirs supermassifs n'est que superficiel, car le gaz de la galaxie infinie, eh bien lui, il est riche en métaux et il ne se trouve pas au centre du halo. Mais il rappelle aussi que des études à haute résolution des conséquences de fusion riche en gaz ont montré que des trous noirs peuvent se former dans les régions centrales du résidu, même si le gaz est riche en métaux. Ça avait été montré par Mayer et collaborateurs en 2010 et en 2015. Alors dans ce canal de formation, c'est la turbulence et la pression thermique, plutôt que l'absence de métaux, qui empêchent la fragmentation et la formation d'étoiles. Le gaz de la galaxie infinie est actuellement réparti sur une région d'environ 10 kiloparsecs en distance projetée, mais il est concevable que des conditions extrêmes similaires aient été atteintes localement au moment de la collision des deux galaxies progénitrices, selon les chercheurs. Il faut préciser également que dans ce scénario, les deux noyaux galactiques ont toujours leur propre trou noir supermassif. Les dispersions de vitesse stellaire des noyaux galactiques sont d'environ 300 km par seconde sur la base de leur taille, qui est d'environ 1 kg par sec, et de leur masse qui avoisine les 100 milliards de masses solaires. La relation masse de trous noirs sigma, donc vitesse de dispersion, implique des masses de trous noirs d'environ 1 milliard de masses solaires pour des dispersions dans cette gamme. C'est des gros bébés quand même. Mais ils n'ont en revanche pas été détectés directement par leur activité radio ou X. Alors comme on l'a dit, la morphologie inhabituelle de la galaxie infinie peut être expliquée par une collision frontale de deux galaxies à disque conduisant à la formation d'anneaux de collision autour des deux bulbes survivants. Dans ce contexte, on peut utiliser les propriétés observées de la galaxie pour déterminer sa géométrie en trois dimensions, approximativement. En supposant que les anneaux sont intrinsèquement ronds, leur rapport d'axe observé, qui vaut 0,77, implique un angle par rapport au plan du ciel de 40 degrés. La distance physique entre les deux noyaux est alors de 15 kiloparsecs. Les astrophysiciens utilisent alors la géométrie déprojetée pour estimer delta t, le temps écoulé depuis la collision. La différence de vitesse radiale déprojetée entre les côtés sud-est et nord-ouest du système est d'environ 260 km par seconde, et pour une séparation déprojetée de 15 kiloparsecs, ils obtiennent un delta T qui vaut 50 méganées. Cet intervalle de temps est cohérent avec les échelles de temps typiques pour la formation d'anneaux de collision dans les simulations. Dans le contexte du modèle d'effondrement direct, le temps écoulé donne une estimation approximative de la masse initiale du trou noir supermassif. Et oui, pour une efficacité radiative standard de 0,1, un trou noir qui accrète au taux d'Eddington, c'est-à-dire le taux maximal, augmente sa masse d'un facteur d'environ 3 sur 50 méganées. Pour une masse actuelle de 1 million de masses solaires, cela donne une masse initiale d'environ 300 000 masses solaires. L'hypothèse selon laquelle des trous noirs peuvent se former tardivement dans des galaxies en interaction n'est pas nouvelle, hein, Par exemple, Chavinsky et collaborateurs ont suggéré en 2011 que la présence de plusieurs AGN dans une galaxie agglomérée à un redshift de 1,35 pourrait être due à une formation in situ et à un ensemencement tardif. Le trou noir actif de la galaxie infinie se distingue de deux manières importantes. Il constitue peut-être l'exemple le plus clair à ce jour d'un trou noir supermassif situé en dehors d'un noyau de galaxie, et le mécanisme spécifique proposé pour sa formation peut être testé par des simulations et encore mieux par des observations complémentaires. La collision frontale de galaxies peut être en effet simulée avec de fortes contraintes observationnelles sur les conditions post-collision, telles que la position des noyaux, la morphologie des anneaux, la localisation et la morphologie du gaz, ainsi que les vitesses radiales observées. Il se pourrait qu'une analyse approfondie des conditions physiques dans les nuages en collision démontre que les trous noirs supermassifs ne peuvent pas se former dans ce scénario. Dans ce cas, on observerait probablement la réinflammation d'un trou noir supermassif errant ou éjecté lors de son passage à travers le gaz dans les régions centrales de la galaxie infinie. Mais s'il s'avère possible de former des trous noirs supermassifs dans ce type de collision galactique, eh bien on en apprendra beaucoup plus sur le processus grâce à cet objet singulier. Par exemple, il se pourrait que l'effondrement soit hiérarchique, avec des fusions d'étoiles massives conduisant à la formation de trous noirs de masse intermédiaire et de multiples trous noirs de masse intermédiaire fusionnant pour former le trou noir que nous détectons actuellement. Et d'autres tests proviendront bien sûr d'observations. La spectroscopie exploitée dans cette étude est limitée dans sa résolution spatiale et ne couvre pas les principales raies d'émission optique, H-alpha, N2 et S2. Ces raies sont inaccessibles depuis le sol en raison de l'absorption de l'eau dans notre atmosphère, mais elles peuvent être observées avec le télescope Webb. Avec NIRSPEC, la présence du gaz émettant des raies entre les noyaux pourrait être confirmée. Les vitesses radiales des noyaux galactiques pourraient être mesurées directement et la transition prédite entre la photoionisation raie du trou noir et l'ionisation par choc plus loin pourrait aussi être observée. De plus, tout décalage de vitesse radiale entre le trou noir et le gaz environnant pourrait être mesuré avec précision. La preuve la plus convaincante d'un effondrement gravitationnel incontrôlable au sein de ce gaz, ce serait l'observation de l'absence de décalage. Ça serait difficile à concilier avec un trou noir errant ou éjecté qui possède une vitesse non négligeable. Et puis, c'est une prédiction du modèle de formation in situ. Alors, si le scénario proposé est confirmé, la galaxie infinie fournit une démonstration empirique que la formation de trous noirs supermassifs par effondrement direct peut se produire dans les bonnes circonstances. Quelque chose qui n'a jusqu'à présent été vu que dans des simulations et par des observations indirectes. L'article de Peter Van Dokkum et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le volume 988, daté du 15 juillet 2025, et il porte le titre « La galaxie infinie, un trou noir supermassif par effondrement direct candidat entre deux noyaux galactiques actifs massifs ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et puis restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut !